Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, de génération en génération, vous vous êtes fait notre refuge. Alléluia. Mes très chers frères, de tous les noms par lesquels on désigne Dieu dans notre religion, celui de refuge est sans doute le plus encourageant et le plus rassurant. Il s'est fait notre refuge de génération en génération. C'est à lui que nous recourons lorsque le danger nous menace. Or, il y a deux sortes de dangers dans le monde, dans l'absolu. Il y a deux sortes de dangers qui sont des dangers principaux, la concupiscence et le châtiment que méritent nos péchés. La concupiscence parce qu'elle nous arrache à Dieu, le châtiment parce qu'elle vient récompenser, en quelque sorte, donner ce que la concupiscence a mérité. Donc il y a deux sortes de dangers, et Dieu n'est pas appelé pour rien notre refuge, puisque c'est en lui que nous nous réfugions contre ces deux dangers, dont l'un n'est autre que sa propre justice. Dieu est la forteresse au sein de laquelle nous nous échappons, et à la tyrannie de notre volonté propre, et au châtiment qui s'abat contre ceux qui désobéissent. Nous avons à voir aujourd'hui, mes très chers frères, plusieurs choses, qui seront, je l'espère, encourageantes. Elles seront tirées de l'Évangile que nous tâcherons d'expliquer dans ces grandes lignes. Plusieurs choses que nous tirerons de l'Évangile pour nous montrer combien nous avons intérêt à nous réfugier dans la forteresse qu'est Dieu, dans le refuge qu'est Dieu. Premièrement, nous verrons que pour être exaucé, il faut avoir l'esprit de pénitence. Et nous poserons la question de savoir en quoi il consiste et quelles sont ses caractéristiques pratiques et comment on doit prier. Tout cela, c'est notre évangile qui nous l'apprendra. Deuxièmement, nous verrons les moyens ordinaires du salut que Dieu a prévus. Nous verrons aussi quelques erreurs à ce sujet et cela nous donnera l'occasion de dire quelque chose du devoir des prêtres. Et en troisième point, nous parlerons de la gratitude, bien entendu. L'ingratitude nous fait perdre les grâces reçues, donc il faut être reconnaissant. Mais comment pratiquer la reconnaissance envers Dieu d'une façon concrète et pratique? Eh bien, mes très chers frères, nous terminerons par des considérations très pratiques avec l'aide de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile des 10 lépreux, guéris par notre Seigneur, dont un seul est venu le remercier. Écoutons bien ce qui est dit, car l'évangile n'est pas simplement l'histoire de notre Seigneur avec quelques bonnes paroles au milieu, mais chacune des paroles de l'évangile, comme du reste de l'écriture, mais chacune des paroles de l'évangile est porteuse de sens, de telle sorte que si nous négligeons certaines choses, nous ne pourrons pas comprendre d'autres choses qui nous semblent peut-être plus fondamentales, mais qui ne peuvent être comprises sans les premières. Écoutez ce qui est dit. En ce temps-là, Jésus, se rendant à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Mes très chers frères, dans l'œuvre du salut accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux choses à considérer. La première, c'est la rédemption, la satisfaction qu'il a réalisée vis-à-vis de la justice de son Père. Il y a donc quelque chose que notre Seigneur a fait, et c'est la rédemption qu'il a réalisée. Copiosa punem eum redemptio, la rédemption est abondante auprès de lui. Donc ça, c'est la chose qu'il a faite par rapport à son Père. Et une deuxième chose à considérer dans ce que notre Seigneur a fait pour notre salut, dans l'œuvre du salut, c'est l'octroi qu'il nous fait, qu'il nous en fait de cette rédemption par pure bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, l'œuvre du salut est accomplie, bienheureux ceux qui peuvent en profiter. Notre Seigneur Jésus-Christ est passé sur la terre en faisant le bien, dit saint Pierre dans les Actes des Apôtres. Et il n'est pas à la disposition perpétuellement des pécheurs. Son œuvre n'est pas à la disposition perpétuellement des pécheurs. Sous un certain rapport, elle l'est. Et sous un autre rapport, elle ne l'est pas. Elle l'est toujours jusqu'à la fin du monde, dans le sens où tous les hommes peuvent avoir accès à cette rédemption, puisque c'est une rédemption par laquelle il a accompli le salut de tous. Et en même temps, il se trouve qu'il y a un temps où notre Seigneur, se rendant à Jérusalem, traverse la Samarie et la Galilée. C'est pour cela que dans l'Évangile, il est dit, en ce temps-là, Jésus, se rendant à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Il était là, sur son chemin pour aller à Jérusalem. Notre Seigneur est allé de son Père à son Père, c'est-à-dire qu'il s'est incarné de la très sainte Vierge Marie, il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il a accompli ce que son Père lui a demandé, lui a ordonné d'accomplir, et maintenant il se trouve que pour chacun d'entre nous, il y a le temps du salut, et c'est le temps où Dieu, où le Christ passe près de nous. Parfois il s'attarde auprès de nous, parfois il passe rapidement, parfois il revient, parfois il ne passe qu'une seule fois, ça dépend des destins. Il se trouve néanmoins qu'il est dit que notre Seigneur, se rendant à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Donc vous voyez, lorsque nous voyons ces lépreux venir au devant de lui et lui demander d'avoir pitié de lui, il faut comprendre que c'était la chance que ces lépreux avaient, c'était en quelque sorte la chance de leur vie. Notre Seigneur, peut-être qu'il serait repassé, parce qu'il faisait des allers-retours de Galilée à Jérusalem, de Galilée en Judée, de Judée en Galilée, mais il se trouve qu'à chaque fois qu'il prenait des chemins différents. C'était en Judée qu'il avait ses habitudes, puisque nous le voyons aller loger chez Sainte-Marthe, Sainte-Marie et Saint-Lazare. La Galilée, dans la Galilée, nul des prophètes dans son propre pays, disait-il, donc il n'avait pas de lieu où poser sa tête, et en Samarie, il ne s'y arrêtait que rarement, uniquement pour évangéliser les Samaritains, qui étaient des schismatiques, qui étaient des Juifs schismatiques, pour illustrer en une sorte de parabole qui annonçait l'évangélisation des nations. Donc les dix lépreux viennent au-devant de lui, parce que c'est l'occasion, c'est la chance de leur vie. Elle ne se représentera probablement plus. Jésus se rendait à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent au-devant de lui. Ils se tinrent à distance et s'écrièrent « Jésus notre Maître, ayez pitié de nous ». Écoutons bien ce que disent ces lépreux. Car c'est une histoire qui n'est, disons, qui ne tourne mal qu'à la fin, simplement, et encore pour 9 d'entre eux, pas pour un. Il est dit, quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent au-devant de lui, et ils se tinrent à distance et s'écrièrent. Ils se tinrent à distance, mes très chers frères. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous faut avoir connaissance que de la séparation opéré par le péché de nous vis-à-vis de Dieu. C'est un préalable. Le péché mortel, nous disent les auteurs, est comme une excommunication que nous nous infligeons à nous-mêmes. Ce n'est pas à strictement parler une excommunication comme les excommunications qu'on a méritées et qui sont décrétées, qui sont lancées par la hiérarchie. C'est une sorte d'excommunication que nous infligeons à nous-mêmes, dans le sens où, pour des raisons toujours stupides, nous nous privons de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre âme. Celui qui m'écoute et qui observe mes commandements, dit notre Seigneur, nous viendrons, mon Père et moi viendrons et nous habiterons chez lui. Il se trouve donc, mes très chers frères, que nous devons comprendre de cet évangile que ce n'est pas pour rien qu'il se tenait à distance. Il se tenait à distance, bien sûr, parce que, étant lépreux, il n'avait pas le droit d'approcher de trop près les gens bien portants. C'était une obligation de la société, de la loi. Mais en même temps, il se tenait à distance par respect pour notre Seigneur. Certains lépreux se sont approchés de lui, parce qu'ils savaient que notre Seigneur, étant la pure et la source de toute pureté, pouvait les guérir. Notre Seigneur ne pouvait pas être contaminé par leur lèpre. C'est vrai. Mais dans cet exemple, ici, nous avons un autre exemple, une autre illustration de la bonne attitude à avoir. Lorsque nous sommes tombés par le péché, comme cela peut arriver malheureusement, il se trouve que nous devons nous tenir à distance, sous un certain rapport. L'un n'exclut pas l'autre, bien entendu. Nous verrons que de toute façon ils se sont rapprochés de lui. Mais nous devons nous tenir à distance, et on ne se tient à distance que par l'humilité. On ne se tient pas à distance Un peu comme ces lépreux qui auraient pu dire tenons-nous à distance de tous ces gens bien portants qui ne se doutent de rien, qui sont finalement insupportables dans leur bonne santé. Non, ce n'est pas cela. Ils ne se sont pas tenus non plus à distance de notre Seigneur en disant Seigneur, nous sommes trop impurs pour vous, passez votre chemin. Ça, c'est plutôt les gens dans l'Évangile, nous voyons, c'est plutôt les gens bien portants qui demandent à notre Seigneur de la façon la plus invraisemblablement stupide qu'il soit, de s'éloigner d'eux. Lorsqu'il allait dans le pays des Génésariens, Géraséniens, et qu'il a guéri cet homme, il a chassé le démon de cet homme possédé qui errait, qui brisait ses fers et qui errait dans les cimetières, lorsqu'il les a guéris et que le troupeau de porcs est tombé de la falaise, les gens bien portants de la ville sont venus et ont demandé avec instance à notre Seigneur de s'éloigner de lui. Donc vous voyez, lorsque l'on est bien portant, c'est-à-dire lorsqu'on se doute de rien, il se trouve que bien souvent nous fuyons notre Seigneur ou nous le mettons dehors. Mais il se trouve que ces disciples qui sont ces lépreux, qui sont l'image des enfants de Dieu qui ont péché, ils se tiennent à distance par respect pour notre Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir s'approcher évidemment des sacrements de façon indue, mais ça je pense que ce n'est même pas la peine de le souligner. Ils ne vont pas venir auprès des choses saintes en présupposant que ce qu'ils ont fait n'est pas bien grave, etc. Ils se tiennent à distance par respect pour notre Seigneur. Ils savent qu'il peut les guérir puisqu'ils le lui demandent. Mais ils se tiennent à distance, et c'est la distance du pénitent. Distance qui n'est pas une vraie distance vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, puisque de toute façon, il est déjà éloigné de Dieu. Mais sachant qu'il s'est éloigné de Dieu, il se tient humblement à distance, comme le publicain dans l'Évangile, qui se tenait loin de l'endroit où se tenait le pharisien, qui était injuste, et qui se frappait la poitrine, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Il était dans le temple, c'est-à-dire, il était là où il fallait, ils étaient devant notre Seigneur, c'est là où il fallait être, mais ils se tenaient à distance, étant humiliés à leurs propres yeux et aux yeux de Dieu par les péchés qu'ils avaient commis. Donc vous voyez, il y a une mauvaise façon de se tenir à distance de Dieu quand on a péché, c'est de hausser les épaules et de dire de toute façon Dieu ne veut plus de moi puisque j'ai péché, Dieu n'aime que les justes, n'aime que les saints, donc autant m'éloigner. Ça c'est faux, ça c'est une mauvaise chose et de toute façon c'est une mauvaise attitude et c'est une attitude qui est inspirée par le démon, qui est, n'oubliez pas, jaloux de nous. Lorsque l'ange est tombé, l'ange n'a plus eu de possibilité de pardon, de réconciliation avec Dieu. Et donc, lorsqu'il voit que l'homme tombe et qu'il peut être réconcilié avec Dieu, et c'est une spécificité du régime dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que si nous tombons, eh bien Dieu nous a donné un sacrement pour nous réconcilier avec lui, eh bien le démon est jaloux de nous. Donc, lorsqu'il nous voit tomber, il vient et nous suggère d'une certaine manière, que nous sommes des anges et que si nous sommes tombés une fois, nous ne pouvons plus nous relever. C'est faux, c'est un mensonge. Donc il faut nous approcher de Dieu, mais avec humilité. Il faut se tenir à distance et s'écrier. Qu'est-ce qu'ils se sont écriés ? Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. Se tenir dans l'humilité, quand on a péché, c'est déjà se rapprocher de Dieu. Nous disent les auteurs. C'est déjà se rapprocher de Dieu que de sentir qu'on est indigne de s'en approcher. La vraie pénitence commence par reconnaître que l'on n'a pas le droit de s'approcher de celui qui est saint à cause de la lèpre de notre péché dont nous sommes contaminés. Donc que faut-il faire ? Il faut se tenir à distance, c'est-à-dire être dans l'humilité, ne pas s'enorgueillir, ne pas s'endurcir, ne pas raidir sa nuque comme nos pères dans le désert. Mais que faut-il faire ? Ils se tenaient à distance et s'écrièrent. Ils s'écrièrent. Il est écrit qu'ils s'étaient allongés, ils se tenaient de loin, et levaverunt vocem dicentes. Et ils ont élevé la voix. Ils se sont écriés, ils ont crié à notre Seigneur, pas simplement parce qu'ils étaient loin et qu'ils voulaient se faire entendre, mais c'était là le signe de leur ardent désir d'être guéri. Jésus notre Maître, ayez pitié de nous. Un petit peu comme Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui criait à tel point qu'il a attiré l'attention du Sauveur, si l'on peut y parler d'une façon humaine. Il criait tellement fort qu'il gênait tout le monde. Il criait tellement fort que les gens lui faisaient un commandement de se taire. Et lui, dit l'évangile, criait encore plus fort. La personne n'empêche les lépreux de crier, mais c'est eux-mêmes qui crient de tout leur cœur, « Jésus notre Maître, ayez pitié de nous ». Donc vous voyez, ces lépreux nous montrent la double bonne attitude des pénitents. C'est-à-dire de ceux qui sont tombés, des justes qui sont tombés, et qui désirent être réintégrés en grâce. Ils se tiennent dans l'humilité, sachant qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu d'une façon arrogante, on ne le peut pas quand on est juste, mais a fortiori quand on est tombé dans l'injustice, et en même temps, loin de se laisser écraser par cette distance, loin de se laisser écraser par leur humilité qui va les faire tomber dans le désespoir, ils hurlent de tout leur cœur, Jésus notre Maître, ayez pitié de nous. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres malades, et d'autres malades ont eu raison de le dire autrement, mais de dire autre chose, parce que c'est un autre enseignement, mais eux, ils ne disent pas « Seigneur, si vous le pouvez, vous pouvez me rendre pur ». D'autres l'ont dit, et c'est vrai, et c'est bien, et ce sont d'autres exemples. Mais eux, ils ne parlent pas tellement de guérison. Ils parlent de la pitié que notre Seigneur doit avoir d'eux. « Jésus notre Maître, ayez pitié de nous ». Jésus Préceptor, miserere nostri. Nous disons constamment, mes très chers frères, miserere nostri. Nous le disons pendant l'office, nous le disons à la messe, nous le disons en toutes sortes d'occasions, pendant les temps de pénitence, et même hors de temps de pénitence. Nous disons constamment à Dieu d'avoir pitié de nous. Nous le disons lorsque les justes le disent. Parce que si Dieu n'a pas pitié du juste, le juste ne peut plus persévérer dans sa justice. Et a fortiori, celui qui est tombé dans l'injustice doit crier, Seigneur, ayez pitié de moi. Ayez pitié de la situation dans laquelle je suis, qui est une situation qui, dans l'absolu, n'est pas normale. Il n'est pas normal pour l'homme d'être éloigné de Dieu. Il n'est pas normal pour l'homme d'être pécheur. Il n'est pas normal pour l'homme d'être privé de la grâce sanctifiante. Il n'est pas normal pour l'homme de ne pas être capable de mériter par des bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que Dieu ne l'a pas créé pour ça. C'est malheureusement pour nous un état assez fréquent dans le sens où il nous semble que c'est là la normalité de l'homme, puisque un état qui n'est pas normal pour l'homme, c'est l'état de justice, l'état d'amitié avec Dieu. Mais si vous regardez bien la raison au commencement, comme dit notre Seigneur, au commencement il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme jouisse de Dieu et soit son ami. Donc il n'est pas normal de ne pas être l'ami de Dieu. C'est pour cela que nous disons à notre Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, nous lui disons, ça vaut toutes les prières en réalité. Si nous lui disons, Seigneur, vous voyez que là maintenant, à strictement parler, je ne me sens pas très bien, donc si vous pouviez faire en sorte que je me sente mieux, s'il faut ce sentiment que je demande, c'est simplement, si je prenais un peu de magnésium ou si je prenais une pastille de quelque chose, ce sentiment reviendrait. Est-ce que notre Seigneur est un pharmacien ? Être pharmacien, c'est un beau métier, mais notre Seigneur n'est pas un pharmacien. Notre Seigneur n'est même pas simplement un médecin. Notre Seigneur est Dieu. Notre Seigneur n'est pas approché par les lépreux pour avoir une consultation, pour savoir ce qu'il pourrait bien faire, pour quel cachet ou quelle thérapie il pourrait suivre pour être guéri de la lèpre. Ils disent d'une façon globale, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous parce que nous sommes des hommes malades. Ayez pitié parce que nous sommes des gens qui sont en dehors de la société, qui ne sommes capables de rien faire puisque nous sommes exclus à cause de notre maladie contagieuse. Ayez pitié aussi de nous, d'une façon générale, parce que nous sommes pécheurs et nous ne sommes pas dans la situation, dans l'état où Dieu veut l'homme. Jésus notre Maître, ayez pitié de nous. Nous devons donc nous tenir éloignés, par une attitude de soumission à Dieu, une attitude qui exclut l'arrogance vis-à-vis de Dieu, et donc qui exclut tout ce qui peut apparaître comme étant de l'arrogance, de l'impatience, du désespoir, de la présomption évidemment, mais surtout les choses négatives qui font que nous nous sentons mal, et il faut crier de toutes nos forces, il faut élever notre voix et dire à Dieu « Ayez pitié de nous ». Voilà comment on a l'esprit de pénitence, vous voyez, mes très chers frères. L'esprit de pénitence, ce n'est pas l'esprit un esprit qui sait comment organiser des régimes pénitentiels, comment faire plaisir à Dieu, comment regagner la confiance de Dieu en faisant certaines prières, certains actes, etc., qui sont supposés plaire à Dieu. L'esprit de pénitence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humilité et le cri de l'âme. Il s'agit de se tenir à distance en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de vos sacrements, du sacrement de communion, en tout cas, du sacrement de pénitence évidemment, mais du sacrement de communion, je n'en suis pas digne, et donc par conséquent, ayez pitié de moi. Mais nous ne le disons pas à mi-voix. Ces lépreux n'étaient pas attablés dans un bar pour lépreux, tout doucement, voyant notre Seigneur qui arrivait au bout de la route, on dit « Oh Seigneur, si vous pouviez nous guérir, qu'est-ce qu'on serait bien, quoi qu'on soit déjà pas mal maintenant ?» Ils se tenaient loin de lui pour marquer qu'ils étaient impurs, et ils criaient de toute leur force « Levavirunt vocem ». Ils ont élevé leur voix, et quand on dit « élever leur voix », ça ne veut pas dire parler simplement pour se faire entendre, c'est vraiment crier « Seigneur, Seigneur Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous ». Vous voyez, « Jésus préceptor ». Pourquoi Jésus notre maître, Jésus notre enseignant? Parce que nous savons que ce n'est que de notre Seigneur Jésus-Christ que viennent les paroles de la vie, tant les paroles de l'Évangile que les paroles qui nous donneront l'absolution. Jésus notre maître, ayez pitié de nous. Il faut donc crier de toutes nos forces vers Dieu du fond de notre humilité. Lorsque nous prions le psaume des Profondis pour les morts, nous parlons aussi de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'homme qui gît au fond de son péché et qui s'écrie à Dieu du fond de la fosse, qui s'écrie à Dieu « Ayez pitié de nous ». Il faut que la prière, nous disent les auteurs, soit forte. Il faut crier de tout son cœur quand la maladie est forte et invétérée. Plus nous sommes malades, plus nous devons crier fort. Et que personne ne dise « j'ai une maladie de la gorge, je n'arrive pas à crier ». Quelle que soit la maladie dans laquelle le péché nous a précipités, nous devons élever notre voix. Pourquoi ? Parce que notre cœur reste capable, même si nous étions entièrement plongés dans le péché jusqu'à être complètement fossilisés dans le péché, si j'ose dire, notre cœur demeurerait capable de crier à Dieu « Seigneur, ayez pitié de moi ». Pourquoi ? Parce qu'il est fait pour cela. A fortiori le cœur du chrétien, puisque le cœur du chrétien est la demeure habituelle du Saint-Esprit. Certes, il a chassé le Saint-Esprit à cause du péché mortel, mais le Saint-Esprit n'est pas loin non plus. Lorsque nous tombons dans le péché mortel, nous ne devenons pas non plus des non-enfants de Dieu. Il se trouve que nous sommes enfants de Dieu jusqu'à ce que nous recouvrions pleinement cette dignité, comme le fils prodigue, au milieu des porcs, au milieu de la débauche, était encore le fils de cet homme généreux. La seule chose, c'était un fils qui était perdu. Le fils perdu, lorsqu'il voyait qu'on ne lui donnait même pas la nourriture des porcs pour le nourrir, et lui qui avait tellement faim, s'est dit et rentré en lui-même, et s'est dit, j'irai vers mon père, etc. Et c'est cela, ce cri, dans une autre histoire, c'est là ce cri très fort, cette voix élevée, compris les lépreux, pour crier et pour attirer à notre Seigneur et pour attirer sur eux la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. Il faut donc, lorsque nous prions, comprendre, lorsque nous prions dans ce contexte-là, comprendre que nous prions en qualité, mine de rien, si j'ose dire, avec une sainte audace, d'enfant de Dieu. Certes, nous sommes pécheurs, certes, nous sommes morts, certes, nous nous sommes remis, sous un certain rapport, sous la puissance du démon. Mais ce n'est pas exactement comme ce que nous étions autrefois, puisque entre-temps, nous avons été baptisés. Entre-temps, nous sommes devenus enfants de Dieu, donc il faut nous adresser à Dieu avec une voix d'autant plus forte que nous savons qu'il est totalement impossible que Dieu ne se tourne pas vers nous et ne vienne pas à notre aide. Que nul ne dise « j'ai crié, Dieu ne m'a pas répondu ». Nous allons voir que si nous crions et que Dieu semble ne pas nous répondre, c'est parce que nous ne crions pas forcément de la bonne façon. Mais si nous continuons à crier, Dieu nous exaucera. D'ailleurs, dans cet évangile, à aucun moment les lépreux ne demandent à être guéris, et à aucun moment notre Seigneur ne leur promet qu'ils seront guéris, puisque notre Seigneur leur dira tout à l'heure « allez, montrez-vous au prêtre ». C'est une sorte de miracle différé, si l'on peut dire. Jésus notre Maître, ayez pitié de nous. Tout ce qu'on a à demander dans cet état, nous dit un auteur, c'est la miséricorde de Dieu. Nous devons crier de toutes nos forces à Dieu, Seigneur, ayez pitié de nous. Et nous pouvons imaginer que ce groupe de 10 lépreux n'a pas sorti son petit diapason, n'a pas fait des petites vocalises en disant « attention, mettons-nous tous bien », etc. 1, 2, 3, « Seigneur, ayez pitié de nous », stop. Non, on voit que c'est une sorte de bruit confus, de cris pendant un certain temps, probablement, que ces 10 lépreux faisaient monter vers notre Seigneur. Ils criaient tous, chacun de leur côté, « Seigneur, ayez pitié de nous », de telle sorte qu'il y avait une sorte de vacarme. Vous voyez, donc, il ne faut pas s'imaginer que le pénitent, qui doit être, comme nous allons le voir, soumis à un régime thérapeutique qui va le faire réintégrer l'état de grâce, mais il se trouve, il ne faut pas imaginer que le pénitent est tenu à une sorte de canon. Le pénitent, tout ce qu'on lui demande, c'est de crier de tout le temps et de toutes ses forces à Dieu. Dans une sorte, même si ça a l'air d'être un bruit confus, un brouhaha, même s'il y a sa concupiscence qui est là au milieu et qui crie, qui crie contre lui, il faut que notre voix crie à Dieu de tout notre cœur, et ce cri, c'est le cri de celui qui ne veut pas être désespéré, justement. Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. En notre Seigneur, avec notre Seigneur et par notre Seigneur, nous dit un auteur, que nous devons demander à notre Seigneur lui-même sa miséricorde. Notre Seigneur passe, il faut l'interpeller avec la voix de notre misère. Il ne faut pas lui cacher notre maladie. Il ne faut pas faire valoir nos actions passées. Il faut s'en remettre à sa seule miséricorde, tout en nous en sachant indignes. C'est-à-dire que nous allons crier d'autant plus que nous savons que nous ne méritons pas, que nous ne méritons pas qu'il ait pitié de nous. Parce que si ces lépreux pouvaient penser en tant qu'hommes que notre Seigneur allait avoir pitié d'eux parce que c'était des hommes qui étaient profondément malades, nous savons qu'à cause de la lèpre que nous sommes infligés par notre propre péché, auquel nous avons consenti volontairement, eh bien, nous sommes d'autant plus indignes de Dieu. Eh bien, que cette indignité ne soit pas pour nous une cause de désespoir, qu'elle soit au contraire simplement le moteur pour crier d'autant plus fort. Nous crions d'autant plus fort que nous savons que nous ne méritons rien. Et bien souvent, comme nous allons le voir, nous crions à faible voix parce qu'il nous semble que notre Seigneur devrait quand même faire une démarche vers nous. Alors qu'en réalité, notre Seigneur passe, notre Seigneur est loin, notre Seigneur est éloigné de nous à cause de nous. Et il se trouve que la seule façon de se mettre en contact avec lui, sous un certain rapport, c'est de crier de toute la force de notre misère, « Seigneur, ayez pitié de nous ». Où que nous soyons, quel que nous soyons, nous devons crier « Seigneur, ayez pitié de nous ». Et notre Seigneur, il est écrit ceci, « Dès qu'il les eut aperçus, allez leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Quos ut vidit, dixit. » C'est très intéressant de voir, sous un certain rapport, parce que tout est dit d'une façon divine dans l'Évangile, sous un certain rapport, notre Seigneur ne les a pas, à strictement parler, entendus. Il les a vus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, ce n'est pas anodin que ça soit dit comme cela. Et comme, dès qu'il les eut aperçus, quos ut vidit, lorsqu'il les vit, eh bien, mystiquement parlant, ça signifie que notre Seigneur n'est pas simplement là en train d'entendre notre prière, comme si c'était un standardiste avec un téléphone qui sonne, il répond et il écoute, à strictement parler, la parole qu'on lui dit, sachant que vous pouvez être assis sur une chaise ou en train de faire le poirier, de toute façon, il n'écoute que votre voix. Vous voyez, le standardiste. Tandis que là, il voit l'attitude globale. Il voit que ce sont des lépreux, donc il est ému de compassion envers eux parce que ce n'est pas pour que l'homme ait la lèpre qu'il a créé l'homme. Il les voit aussi se tenir à distance, c'est-à-dire se tenir dans une distance respectueuse, et il les voit crier vers lui. En réalité, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la confiance qu'ils ont en lui. Et c'est pour cela qu'il est dit que notre Seigneur les a bien sûr entendus, mais notre Seigneur, il est dit qu'il les a vus. Il les a vus, et Saint Augustin nous dit que, notre Père Saint Augustin nous dit que, en réalité, c'est parce qu'il les a vus avant qu'ils ne le voient qu'ils se sont mis à crier vers lui. Donc, d'une certaine manière, lorsqu'il les vit, dès qu'il les eut aperçus, c'est antécédent à leur cri et à leur attitude. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça veut dire que nous devons crier avec d'autant plus de confiance et d'autant plus de force que nous savons que si nous crions, c'est bien que notre Seigneur est disposé est tellement disposé à nous écouter qu'il nous donne cette amorce qui consiste à nous donner le désir de crier vers lui. Seigneur Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les vit, dès qu'il les eut aperçus, allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Et alors ici, les commentateurs sont très intéressants parce que, bien sûr, notre Seigneur, ils disent que notre Seigneur fait référence, comme il l'a fait à une autre fois, à une autre reprise, et il fait référence à la loi de Moïse qui prévoyait que les lépreux s'approchent des prêtres deux fois. Premièrement, une première fois, lorsqu'un homme saint découvrait quelque chose sur sa peau,